Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme en ce mardi 12 septembre. J'espère que pour celles et ceux qui ont des enfants qui fréquentent encore les écoles, tout se passe bien. Et je voulais attirer votre attention, mais certainement vous le savez déjà, sur le fait que le Covid, dans sa nouvelle version, très joli nom, Iris, hein, ça fait rêver, se propage rapidement à l'échelle du territoire. Il n'y a plus de protocole dans les écoles, donc après, chaque chef d'établissement fait selon son bon sens, selon sa conscience. Je pense que, en ce qui me concerne, bon, j'ai reçu ma cinquième injection, je vais ressortir les masques quand je suis dans des espaces clos. Et puis, le gel, il n'a jamais vraiment quitté ni mon sac à dos, ni ma voiture. Alors, je ne pensais pas aujourd'hui vous parler du sujet qui va suivre. Alors, parce que j'avais en tête un autre sujet lié à la malbouffe et à la manière dont elle s'est répandue en France et en Europe, enfin, maintenant quasiment partout. En fait, le sujet que je vais traiter aujourd'hui était un sujet totalement tabou dans ma famille. Alors, je dis dans ma famille, mais je pense que c'était dans beaucoup, beaucoup de familles. Dans ma famille, dans notre famille, on ne parlait pas des règles, on ne parlait pas de sexualité, on ne parlait certainement pas de ménopause ou de préménopause. Tout ça, c'était des sujets qui étaient un peu comme des continents très éloignés, qu'un jour on en aborderait les rives et on devrait se dépatouiller avec ça tout seul. Si bien que j'étais une personne qui n'était pas capable de parler elle-même de tout ça. Alors, ce qui a changé, alors que fin octobre, j'aurai 54 ans, c'est que j'ai eu des enfants, deux filles, j'ai commencé avec deux filles, que ces filles sont devenues des jeunes filles, et que je n'ai pas voulu reproduire certaines erreurs. Donc, j'ai su leur parler quand ça s'imposait des règles, de ce que cela signifiait. Nous avons pu parler de sexualité, même si à un moment, elles m'ont trouvé encore un peu verrouillée ou peut-être vieux jeu. Et je me rappelle avoir évoqué ce sujet avec la gynécologue endocrinologue qui m'a suivi pendant plusieurs années à la Pitié-Salpêtrière, le docteur Noël. Et elle avait souri quand je lui avais dit que voilà, j'avais deux enfants, deux filles qui, en même temps, me pressaient de prendre rendez-vous chez le gynécologue, que ça avait été un peu compliqué pour moi. Et nous en avions ri toutes les deux. Et puis, j'ai eu aussi, bien sûr, tout au long de mes années d'exercice dans mon cabinet de sophrologue, des patientes qui parlaient des choses très simplement, qui mettaient les mots sur les situations. Voilà, tout ça, ça m'a permis de progresser et de pouvoir aujourd'hui vous parler de la préménopause et de la ménopause. Il y a en France 14 millions de femmes qui sont concernées par la ménopause. Il y a tous les ans 400 000 nouvelles femmes qui vont entrer en ménopause. Et ce qui m'a donné envie d'aborder ce sujet, c'est que j'ai lu récemment que ça restait encore un tabou, peut-être le dernier tabou de notre société, la ménopause des femmes. Est-ce que cela peut provoquer dans leur vie, mais aussi dans leur vie de leur entourage? Quand nous étions dans le Mercantour, un matin, je prenais mon petit déjeuner toute seule et derrière moi, il y avait un groupe de femmes. Elles étaient 8, elles marchaient comme ça, entre amies. Elles devaient avoir, je dirais aux alentours de 65 ans. Et le sujet roulait sur la ménopause. Et l'une d'entre elles disait qu'elle faisait malheureusement partie du tout petit pourcentage de femmes qu'aucun traitement n'aide et qu'elle continuait à avoir des bouffées de chaleur, qu'elle était obligée parfois la nuit de changer ses draps, qu'elle était trempée. irritable, fatiguée, et que c'était vraiment difficile à vivre. Et elle avait vraiment tout essayé pour essayer, justement, pour trouver des solutions à tous les inconforts subis par la ménopause. Alors, je ne suis pas gynécologue, mais j'ai le sentiment quand même que la manière dont une femme traverse la ménopause ressemble beaucoup à la manière dont sa propre mère l'a traversée. Donc à ce titre, je remercie les femmes de ma lignée qui ont eu le bonheur de ne pas ressentir de bouffées de chaleur, de sautes d'humeur particules, de sautes d'humeur parce que voilà, j'ai cette chance d'être comme elle. Alors, pour évoquer ces sujets, je vais vous lire une chronique qui est en fait le concentré de deux textes. La première date de 2022 et la seconde de 2014. Mardi 1er février, donc 2022, ciel brouillé, bruine pénétrante, chemin détrempé. Devant chez Muguette, les poules et Charlie, le coq, chantent fort. Les volets de la fenêtre de la cuisine sont ouverts. Un seau bleu attend devant la porte. Pas de traces de Muguette et de Pépette. Pas le temps de m'arrêter. Dans tous les cas, l'heure des poules n'est pas la meilleure pour passer le portail. C'est la Chandeleur demain. Je vais faire des crêpes et on apportera à Muguette. Avant qu'elle ne rende ses poules, ne s'enferme pour regarder tranquillement affaire conclue. Demain, je ne pourrai pas, car je vais travailler toute la journée. Depuis septembre, je devais faire doser mon taux de TSH et pratiquer l'examen de sang qui déterminerait si j'étais ménopausée. En 2014, je suis entrée en préménopause et le médecin m'a prescrit une pilule qui coupe les règles car j'avais des hémorragies dont j'ai mis plusieurs mois à me préoccuper. Par un courrier d'assurance maladie, j'ai appris la semaine dernière que cette pilule, appelée chlormadinone, contenait du lutéran et que cette molécule était suspectée d'avoir donné un méningiome aux femmes qui en prenaient. J'ai commencé à la prendre en 2014 et j'ai cessé à l'été 2020 car elle était introuvable dans les officines. Le médecin l'a remplacée par du colprone. Les pharmaciens ne savaient pas pourquoi il était devenu impossible de s'approvisionner en chlormadinone. Pardon. Mais en réalité, le laboratoire cessait sa production. Heureusement que je suis d'un naturel positif car le courrier de l'assurance maladie dit, et je cite, « Le méningiome est une tumeur développée à partir d'une membrane qui entoure le cerveau, les méninges. Le plus souvent, ces tumeurs sont non cancéreuses. Toutefois, elles peuvent être à l'origine de troubles graves, pouvant nécessiter une intervention chirurgicale lourde. Ce risque augmente en fonction de la dose et de la durée du traitement. En effet, des études conduite, alors je ne sais pas du tout ce que recouvrent ces initiales, le GIS, EPIFA, ont montré que le risque de développer un méningiome est multiplié par 12 à partir de 5 ans d'utilisation d'acétate de nomégestrol. Il est multiplié par 7 à partir de 3 ans et demi d'utilisation pour l'acétate de chlormadinone. J'ai pris ce médicament pendant 6 ans. Cela tombe bien, j'ai mon rendez-vous presque biannuel à la pitié, avec une femme médecin remarquable qui est à la fois endocrinologue et gynécologue. Je vais pouvoir faire un point avec elle et savoir s'il convient ou non que je passe une IRM. Voici de longues années, après un tour du monde et alors que j'avais repris ma thèse, j'avais fait une expérience très étrange. J'étais assise dans la bibliothèque Cujas, près de la place du Panthéon. Je détestais la bibliothèque François Mitterrand. J'avais mes habitudes à Cujas. Je regrettais de ne plus être autorisée, comme je l'avais été pendant mes 2 années où j'étais à terre, à aller chercher moi-même mes ouvrages dans les réserves. Au début, ces kilomètres de rayons me faisaient peur. Et si je m'y perdais? Et si je m'y retrouvais enfermée la nuit? Avec le temps, j'avais pris mes marques. J'étais aussi autorisée à aller dans la salle violet réservée aux professeurs. Mais je ne l'aimais pas, car l'ambiance était froide et sévère. Les professeurs de droit ne sont pas réputés pour leur nature follement joyeuse. On se demande même parfois s'ils ne sont pas en lice pour le concours du professeur le plus ennuyeux. Quel dommage. Le professeur François Terret, lui, faisait exception et se métamorphosait en bête de scène quand il prenait son amphi, à Paris 2, l'amphi le plus grand d'Europe. Nous l'écoutions fascinés, sans même prendre de notes. Il sautait sur les tables et donnait au droit des obligations une dimension fabuleuse. C'est d'ailleurs cette année-là que j'ai eu mes meilleures notes en TD et à l'écrit, comme quoi vraiment, le professeur est déterminant dans l'envie de travailler et dans la réussite de son élève ou de son étudiant. J'étais donc assise dans cette bibliothèque et je tapais sur un très vieil ordinateur qu'une amie allemande, avocate, m'avait donné. Tout d'un coup, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement angoissant. Mon cerveau s'était éteint quelques secondes. C'était comme de débrancher un appareil électrique. Tout était noir. Quand la lumière est revenue, j'ai senti que mon cerveau s'était rebranché. J'ai rangé toutes mes affaires et suis partie. Ce jour-là, en passant devant un restaurant de la rue Soufflot, j'ai eu brutalement mal au cœur. Et j'ai su alors que j'attendais un deuxième enfant. Victoire était en route, et elle l'était depuis un certain temps. Lorsque la gynécologue que j'aime beaucoup a fait l'échographie, nous avons vu apparaître un bébé qui gigotait fort et semblait rire de nous. J'étais déjà entrée dans le quatrième mois. Samedi matin, l'infirmière venait à la maison me prélever plusieurs tubes à l'essai de sang et le soir déjà, j'avais les résultats grâce à mon compte sur internet. Ma TSH, qui s'était bien stabilisée, repart à la hausse et je suis ménopausée. Je sais que des femmes vivent très mal cette étape de leur vie, comme si elles les propulsaient dans la catégorie des femmes mûres, voire carrément vieilles, et devant renoncer à toute forme de séduction. Comme ce serait triste de penser de la sorte. Je pense à ce que les femmes ménopausées ont vécu pendant des siècles d'ignorance. Elles pouvaient faire tellement peur aux hommes qu'on n'hésitait pas à les taxer de sorcières. Le fait qu'elles puissent enfin avoir une sexualité libérée de la procréation était effrayant. Longtemps, les hommes ont pensé que le ventre des femmes, et plus précisément leur utérus, leur appartenait. Les très nombreuses grossesses souvent subies étaient une manière de soumettre les femmes. On sait comment le viol a toujours été utilisé comme une arme de guerre, même s'il n'était reconnu comme tel que depuis peu. Je me demande toujours comment en Russie, en Corée, en Allemagne, en France, au Rwanda, en Syrie, au Kosovo, les femmes ont réussi à aimer des enfants qui étaient nés de la violence et de la haine. Je suis ménopausée et je vais pouvoir voler au-dessus du plateau avec Muguette sur son balai, peint en bleu, de préférence les nuits de pleine lune. La Catalogne, après l'Écosse, vient d'annoncer le retour en grâce de toutes ces femmes arrêtées, torturées et brûlées pendant la période de l'Inquisition. Dès qu'une femme avait un caractère fort, était éprise de liberté et refusait de se soumettre à l'autorité d'un père, d'un frère ou d'un mari, elle était forcément une sorcière. Vendredi, aux alentours de 15h, je serai dans le box du docteur Noël. Je ne me suis jamais fait à l'emploi de ce mot « box ». Je ne suis pas une jument qui va concourir à Longchamp. Je lui demanderai si son fils a toujours le projet de se marier cet été sur une île grecque. Le mariage a été repoussé d'une année à cause de la pandémie. Elle ne cherchera pas à me peser. Elle a compris que monter sur une balance est insupportable pour moi. Elle connaît l'anorexie et elle sait les traces qu'elle peut laisser. Je me réjouis de retrouver Paris, ma sœur, Céleste, mes neveux et notre maman. J'ai pris des billets pour l'exposition sur Cartier au Musée des Arts Décoratifs et pour celle de Lima, consacrée aux Juifs d'Orient. J'ai acheté des monsieur madame pour Charlotte, notre petite nièce, et Romane, la petite fille dont Céleste s'occupe tous les jours et qui est dans la même école que Charlotte. Le samedi, je prendrai le train avec Céleste et le dimanche matin, Victoire et ses camarades de l'aumônerie prendront place dans le car, les conduisant à Thésée. Ce matin, je suis allée lui acheter une petite Bible, car les deux miennes sont bien trop volumineuses. Et c'est alors que j'enchaînais sur cette chronique postée en 2014 qui avait donné lieu à beaucoup de commentaires, notamment d'hommes qui m'avaient remercié et qui s'étonnaient encore que ces sujets soient aussi tabous dans notre société. Dans cette chronique, je parle aussi de mon cabinet, du lien que j'entretiens avec les personnes qui franchissent la porte, et de ce que je ressens. Vendredi 26 septembre, un temps magnifique, une lumière tendre qui joue entre les branches du sapin, où un écureuil prend un bain de soleil. Ma dernière patiente de la semaine est partie. Dans l'air flotte son parfum, un mélange d'herbes vertes et d'agrumes. J'ai ôté les plis que son corps a laissés à la surface du drap qui couvre mon canapé et qui est un des souvenirs de notre grand voyage, Quand nous étions dans le nord de l'Inde, au Ladakh, dans la ville de Leh, nous avions acheté et avions fait réaliser par un couturier l'équivalent de sac à viande de la SNCF pour nos nuits sous tente. Donc j'ai oublié un mot, ce que nous avions acheté, bien sûr, c'est du tissu. Les sacs de couchage prévus pour résister à des moins 25 degrés ne seraient plus de circonstance quand nous aurions quitté l'Himalaya pour gagner le Kerala. Très longtemps, les draps ont gardé dans le cœur de leurs fibres l'odeur de l'encens qui flottait dans la petite échoppe. Ils étaient plusieurs hommes à y travailler, assis à même le sol, les jambes repliées en tailleur. Il faisait sombre dans la pièce. Ils ne se parlaient pas. Ils ne levaient jamais les yeux de leur ouvrage. Ils écoutaient la radio. Les murs étaient tapissés de photos d'acteurs de Bollywood. À présent, le drap sac s'imprègne de l'odeur de mes patients, comme mon sac de couchage dans lequel je les enveloppe quand on entre dans la période hivernale et que la détente peut faire descendre la température du corps. Mon sac de couchage continue à avoir du paysage, tant il est vrai qu'une expérience sophrologique ressemble à un voyage. Je referme mon grand cahier à spirale, celui dans lequel je consigne ce que les patients me disent avant et après la séance, les progrès, les bienfaits, les difficultés, les nouvelles pistes à explorer. Je referme aussi mon agenda dont les pages sont illustrées par des peintures de Frida Kahlo. J'essaie de mettre un peu d'ordre sur mon bureau, mais pas trop. La nature a horreur du vide. Tous ces objets, ces papiers, papier de soie, papier d'Arménie, c'est rassurant. J'accroche tout autour de l'abat-jour de la lampe qui éclaire la droite de mon ordinateur des cartes postales que j'achète pour conserver un souvenir d'un moment agréable, d'une exposition qui m'a particulièrement plu. Depuis quelque temps, on y trouve un détail d'un tableau de Félix Vallotton intitulé « La loge de théâtre, le monsieur et la dame ». Une belle arlésienne portant un brin de muguet peinte par Daniel Raspini, une photo de Heinrich Kuhn représentant une femme et une petite fille dans le vent, la photo d'une deux chevaux perdue dans un champ de lavande, dans le Luberon, offerte cet été par une âme sœur artiste peintre lors d'une promenade à Éguez, et une phrase de la Rochefoucauld « Qui vit sans folie et n'est pas si sage qu'il croit ». Le bureau est rangé. Dans le sapin, l'écureuil et sa splendide queue rousse sont disparus. Je vais redescendre dans la cuisine, la tasse de café de 9h, celle de 14h et enfin le mug de thé de 17h. Je quitte la maison cabinet à la campagne pour la ville. Je me gare sur le grand parking non payant. J'aurais aimé traverser le jardin, mais il est fermé. On s'active pour préparer les ateliers en vue de la 18e virade de l'espoir organisée par l'association « Vaincre la mucoviscidose ». Demain, nous participerons à cette manifestation avec les enfants et leurs mamies, qu'ils attendent toujours comme le Messie. Nous y retrouverons des visages connus, et plus particulièrement celui de la maman de ma troisième filleule, Véronique, qui, tous les ans, aide Hubert, potier de son état, à animer un atelier. Hubert aura rapporté à notre fils son dinosaure, après l'avoir cuit dans son four. Cela fait un an que notre fils attend son dinosaure et il ne l'a pas oublié. Ce vendredi, j'ai rendez-vous chez le gynécologue, celui qui me suit depuis que nous sommes installés dans cette région. Un homme qui doit approcher à pas compter de la soixantaine. J'ai toujours préféré être suivie par une femme, mais ici je n'ai pas eu le choix. C'est lui qui a fait le suivi de ma grossesse quand je portais notre petit homme préhistorique. Notre adorable capitaine des cavernes, l'enfant de bientôt 7 ans qui attend son dinosaure. Alors j'ouvre une parenthèse, mais c'était assez rigolo. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Mais déjà, quasiment tous les mois, il me soumettait à une échographie. Et tous les mois, la seule chose qu'il avait à cœur de me montrer, c'était le sexe de notre fils. Voilà, et c'était assez déconcertant. Et je lui disais, mais docteur, il y a peut-être autre chose. Et il faisait vraiment une fixation sur le sexe de notre fils, peut-être parce qu'il en avait marre d'observer des anatomies féminines. Quand je franchis la porte de la salle d'attente, je suis la seule. Oh, cela fait quand même de nombreuses années que je vais dans ce cabinet et ce n'est encore jamais arrivé. En général, la salle est bondée de femmes de tous les âges, femmes enceintes, jeunes filles avec leur mère, femmes ménopausées, femmes avec leur bébé, et parfois futurs pères venus rencontrer, admirer His Majesty's Baby, in utero. À ce titre, je n'oublierai jamais l'expression de mon mari quand, 10 ans en arrière, nous étions chez le gynécologue qui me suivait dans le Gard et que nous avons vu apparaître sur l'écran de l'échographe une petite fille de presque 4 mois qui gigotait comme un beau diable et semblait nous dire avec un large sourire, un regard espiègle « Surprise !» C'était Victoire, notre numéro 2. La salle d'attente d'un gynécologue est un vrai gynécée. On ne serait pas surpris que la secrétaire médicale soit un eunuque, grassouillet, quittant parfois son bureau pour nous offrir des cornes de gazelle avec un thé à la menthe ou un café turc, le tout posé sur un grand plateau en cuivre. Des enceintes, vraiment le terme est parfaitement adapté, sort La Voix du Sud de Francis Cabrel, le début du voyage en Orient. C'est une compilation avec des chansons comme Je l'aime à mourir ou encore L'encre de tes yeux. Cela fera bientôt 27 ans qu'une de mes amies et moi nous écoutions ces titres, sortis l'un en 1979 et l'autre en 1980. Nous les écoutions dans l'appartement de sa mère, situé très près de notre faculté. Cet appartement, si au 60 de la rue Madame, a accueilli des soirées mémorables, généralement organisées quand la maîtresse des lieux participait à un colloque médical à quelques milliers de kilomètres. Nous étions des juristes en herbe et encore des jeunes filles en fleurs, que la dissection des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation n'avait pas asséché. Il fait très froid dans la salle d'attente, qui ne possède qu'une seule fenêtre ouverte sur la cage d'escalier. Sur la table basse, 3 piles de magazines, Psychologie Magazine, Elle et L'Express. Une femme me rejoint. Elle a rendez-vous avant moi. La conversation s'engage. Elle trouve que les femmes y se moquent par le passé, prennent plus soin d'elle. Et d'ailleurs, elle précise que les gens ne lui donnent jamais son âge, qu'elle doit parfois sortir sa carte d'identité car on ne la croit pas. En fait, ce n'est pas une conversation, mais plutôt un monologue. Je l'écoute. En fait, j'ai l'habitude. Très vite, les gens s'ouvrent à moi de toutes sortes de choses et j'accueille ce qu'ils ont à me dire. Elle est assez stressée et les aiguilles qui tricotent du temps sur la pendule n'arrangent rien. Ce que je me garde de lui dire, c'est que le gynécologue qui était là à mon arrivée vient de partir. Je comprendrai tout à l'heure, par recoupement, qu'il a filé chez sa banquière, dont je saurai même le prénom à la fin de la consultation. Il doit changer son matériel pour les échographies. Il hésite entre un achat en crédit bail plus cher qu'un prêt à un taux très bas. Il en a pour 70 000 euros pour renouveler son matériel, qui lui est indispensable pour le suivi de ses patientes. Une autre femme entre. Elle est d'origine africaine. J'admire la finesse de ses attaches, ses chevilles et ses poignets, et le calme qui émane de sa personne. Cela tranche avec l'agitation qui gagne l'autre patiente. 5 minutes ne se sont pas écoulées qu'entre une maman, son petit garçon et un bébé. Une petite fille dont je ne vois que les pieds qui dépassent du maxi-cosy. La maman est encore ronde de sa dernière grossesse. Elle a un beau visage serein. Par le jeu de la projection, je plains le petit garçon qui va sans doute devoir attendre plus d'une heure dans cette salle sans bouger. Sa maman et lui ont les yeux rivés sur le bébé et leur visage s'éclaire par intermittence quand, je l'imagine, le bébé sourit dans son sommeil. Il est calme ce petit garçon qui doit avoir sensiblement l'âge du mien. Son cou porte les marques rouges que la bandoulière de son cartable a laissées. Il contemple sa sœur. Je me demande s'il est jaloux, sa maman ne lui parle pas. La patiente agitée est appelée par le médecin qui, revenu de son rendez-vous à la banque, a juste eu le temps d'enfiler sa blouse blanche. Mon tour arrive, je me lève. Nous nous serrons la main. J'ouvre une parenthèse, c'est une époque où, encore, les médecins serraient la main de leurs patientes et de leurs patients. Depuis, le Covid s'est terminé. Je ne perds pas de temps. Je suis gelée, pressée de retourner à la lumière du jour, à la vision du soleil qui éclaire les feuilles d'automne. Et je pense à cette maman avec son fils et son bébé qui vont attendre encore longtemps dans la salle d'attente glaciale. J'ai des hémorragies intermittentes depuis plus de 4 mois. Je crains de m'anémier. Dans ma famille maternelle, les femmes développent des kystes ou des fibromes à mon âge. Eh oui, docteur, je vais avoir 45 ans. Je suis en train de basculer de l'autre côté. Je m'achemine lentement mais inexorablement vers l'autre rive du fleuve, celle où on attend Caron pour entreprendre l'ultime voyage. Mais avant, j'aurai eu le temps, j'espère, de voir mes enfants devenir des adultes heureux, se marier s'ils en ont envie, et un jour, des parents ravis de déposer leur bébé à leurs parents devenus des grands-parents. Je m'installe, il cherche un kyste, car c'est aussi ce à quoi il a pensé, mais le seul kyste qu'il trouve est celui qui annonce une ovulation future. En fait, il n'a rien vu. Je suis comme des milliards de femmes avant moi et après moi. Mon corps commence à fabriquer de moins en moins de progestérone. Mes ovaires, qui ont si bien fonctionné depuis la puberté, mis à part les moments où j'étais trop maigre, vont se dérégler. Les cycles vont devenir anarchiques avec des pertes de sang intenses, puis plus de saignement du tout, des tensions dans la poitrine qui s'arrondit, comme pour une montée de lait, puis plus de tension. Et la poitrine qui revient à sa taille habituelle, le train du sommeil qui ne passe plus en garde, de l'irritabilité, des sensations de chaleur subite, la peau qui s'assèche, bref. Tous les signes cliniques d'une diminution de la progestérone. Cela fait déjà quelques années que je me prépare à la ménopause, qui met à mal tant de femmes moralement et physiquement. Je m'y prépare comme je me suis toujours préparée aux événements importants de ma vie, pour les vivre au mieux, pour ne pas me laisser dépasser par mes émotions. Car je sais que j'hyper réagis aux choses. Il n'y a pas si longtemps encore, on donnait aux femmes des traitements substitutifs qui faisaient disparaître d'un coup de baguette, non pas magique, mais chimique. Tous les désagréments liés à ces bouleversements hormonaux qui s'installent dans le temps peuvent être vraiment très pénibles et nourrir ou servir de révélateur à des dépressions profondes. Maintenant, on n'ose plus prescrire ces traitements, après qu'on ait fait le lien entre eux et certains cancers. Je ne me suis jamais dit que je vieillissais, non pas que je ne vois pas que le temps sur moi fait son œuvre, qu'il me façonne, mais je ne me dis jamais que je ne peux plus faire ce que je faisais à 15 ans. Je ne me sens pas de limite. Je ne me suis jamais dit que je vieillissais, même si, comme la plupart des hyperactifs qui se respectent, la mort m'effraie, dans le sens où elle est la limite à l'envie d'exister, d'être au monde, de se réaliser, et que ma foi en Dieu ne me donne aucune certitude sur la façon dont je vais naître dans la vie éternelle. Quand je sors du cabinet, que je retrouve la lumière douce de ce début d'automne, la chaleur des rayons du soleil, je respire profondément. Pour la toute première fois de ma vie, je me dis en conscience que je vieillis, et que pour moi qui aime tant relever des défis, le plus important sera celui qui consiste à sublimer la peur de la mort, qui est en réalité la peur de ne pas réussir à tout réaliser avant de partir. Je m'étais préparée à la ménopause, pas aux désagréments liés chez certaines femmes à la préménopause. C'est une bonne expérience de la mesure où elle va me permettre de mieux comprendre encore certaines de mes patientes, et pouvoir aussi peut-être les aiguiller, être de bons conseils. Les bouleversements hormonaux qui s'opèrent chez les êtres à partir de 45 ans nous offrent un bel exemple de l'absence d'égalité entre les deux sexes. En effet, si la plupart des femmes seront affectées à des degrés divers au moment de la préménopause et dans tous les cas ménopausées aux alentours de 52 ans, seulement 2% des hommes âgés de 40 à 80 ans vivent une andropause. Il faudra un jour qu'on m'explique pourquoi, Dame Nature a jugé souhaitable que l'homme puisse engendrer alors qu'il est en âge d'être grand-père. Alors, je voudrais préciser que j'ai accueilli dans mon cabinet des femmes qui avaient subi des ablations totales de l'utérus, également des ovaires, et qui s'étaient retrouvées du jour au lendemain ménopausées. Et ça, c'est excessivement violent. Alors, je ne suis pas sûre que les chirurgiens en amont les préparent aux conséquences de cette opération. Alors, en soi, ce n'est pas grave, on n'a absolument pas besoin d'un utérus, hein, ni de ses ovaires quand on arrive à un certain âge. Mais selon son parcours, son histoire, on peut avoir besoin de temps pour s'y préparer. Et j'ai observé aussi, avec mes patientes, qu'il y a un lien qui peut se faire entre la manière dont on a mené à bien ou pas ses projets d'enfant et la façon dont on vivra la ménopause. Quand une femme s'est totalement épanouie dans sa maternité, eh bien, il y a plus de chances qu'elle vive bien l'arrêt des règles, la fin pour elle de la possibilité d'avoir des enfants, même si passé un certain âge, elle ne l'envisage plus. Mais malgré tout, ça se prépare. Et quand du jour au lendemain, on se retrouve ménopausée, c'est difficile, c'est très douloureux. Donc le mieux, c'est de pouvoir amorcer en amont des dialogues avec son médecin, avec une sage-femme. J'ai fait le choix il y a quelques mois de ne plus aller chez le gynécologue que j'évoque dans ce texte, mais d'aller voir une sage-femme qui est très très bien, qui peut absolument pratiquer tout ce que fait le gynécologue, faire des prescriptions. Ce que j'avais constaté la dernière fois que j'étais chez le dit gynécologue, j'avais déjà, j'avais 52 ans, c'est clairement, j'étais maintenant, je faisais partie de cette patientèle qui ne l'intéressait plus. Voilà, j'étais clairement, j'aurais plus d'enfants, je commençais à vieillir. Et d'ailleurs, ça m'amène à cette réflexion que j'ai eue cet été, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'attendais devant un passage protégé et je pensais au moment de la vie où les gens s'arrêtent, surtout les hommes, pour laisser passer des personnes qui attendent. Alors on s'arrête quand on voit des enfants, on s'arrête quand on voit une maman qui tient des enfants, on s'arrête quand de jolies jeunes filles ou de belles femmes attendent. Encore plus quand elles sont habillées de manière gracieuse. On s'arrête quand on voit une femme enceinte. On s'arrête quand des personnes entrent dans l'âge ou qu'elles sont en difficulté. Et le reste du temps, on ne s'arrête plus. Donc voilà, je rentre dans cette catégorie où on n'a plus forcément envie de s'arrêter pour me laisser passer. Alors je vivrais dans un pays anglo-saxon, la question ne se poserait pas, je n'aurais même pas besoin de forcer le passage, d'avancer un pied, on s'arrêterait. Mais chez nous, c'est différent. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée ou une douce nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.